Douglas.
Accent d'Europe, Laurent Berthaud.
This is the end, beautiful friend.
Bonjour à tous. Le grand détricotage a commencé. La première ministre britannique Theresa May a entamé ce mercredi la procédure de divorce avec l'Union européenne. Conformément à l'article 50 du traité de Lisbonne, le Royaume-Uni a désormais 2 ans pour négocier cette sortie de l'Union. Peut-être les négociations les plus compliquées de tous les temps, au dire même du ministre en charge du Brexit. Il faut en effet faire table rase de 44 ans de passé commun pour établir de nouvelles règles. Ce Brexit aura aussi un coût pour le pays, évalué à 60 milliards d'euros. Alors, comment les Britanniques qui ont voté à 51,9% pour le Brexit abordent ce changement? C'est ce que Marie Billon a cherché à savoir. Du côté des pro-Brexit, on veut d'abord se rassurer.
Je pense qu'ils auraient dû amorcer la sortie dès le vote. Nos écoles, nos services sociaux sont sous pression. Peut-être que tout ça va améliorer la situation. Et j'espère qu'on n'aura pas à payer ces 50 millions. Millions ou milliards? Je ne sais plus, milliards. C'est ridicule, ils nous ont déjà assez pris.
Ça va aller. On essaie de nous faire peur, mais il ne faut pas oublier les 200 autres pays avec lesquels on peut faire du commerce. La première fois que le Royaume-Uni a voulu rejoindre la communauté économique européenne, le président français n'a pas voulu de nous. Le général de Gaulle connaissait très bien les Britanniques. Il avait passé beaucoup de temps ici durant la guerre et il savait que nous ne serions pas à l'aise dans l'Europe qu'il voulait créer. Une Europe des patries. Il connaissait et appréciait nos atouts comme nos défauts et il avait une vision plus réaliste que d'autres aujourd'hui.
Et de leur côté, les pro-européens sont plutôt inquiets mais pas résignés.
Je n'aime pas ce qui est en train de se passer. Ce n'est pas la bonne direction à prendre. J'ai aussi l'impression que ça va donner libre cours au discours de haine, xénophobe et raciste. J'ai beaucoup d'amis qui sont ressortissants de l'Union européenne ou d'autres pays et ils ne sont plus sûrs d'être les bienvenus ici. Je travaille dans le secteur de la santé et il y a beaucoup de travailleurs européens qui ont l'impression qu'on ne veut plus vraiment d'eux.
Je suis très déçu et en colère. Mon épouse est allemande. Elle a dû demander la nationalité britannique. Ça coûte des milliers de livres sterling et c'est une perte de temps. Maintenant, elle est sûre de pouvoir rester, mais tout le monde n'a pas sa chance. Je me dis qu'il y a toujours une petite possibilité qu'on ne sorte pas de l'UE. Mais en réalité, je pense qu'on va sortir, galérer quelques années et demander à revenir.
Je suis écossais, je ne suis pas content. Ce n'est pas une décision réfléchie. J'aurais vraiment aimé que ça n'arrive pas, mais je veux que l'Écosse reste au sein de l'UE. On verra ce qu'on peut faire pour ça à l'avenir.
Les témoignages de Londoniens recueillis ce matin par Marie Billon. Les Britanniques ont manifesté leur refus de l'UE, d'autres Européens veulent au contraire la célébrer, et pas seulement à l'occasion des 60 ans du traité de Rome. Depuis quelque temps, c'est un mouvement citoyen pro-européen qui prend de l'ampleur, Pulse of Europe. Chaque dimanche après-midi, ils sont ainsi plusieurs milliers de citoyens à manifester dans des villes européennes pour célébrer l'Union. Un mouvement né en Allemagne et qui a fait tache d'huile dans plus de 70 villes du continent, comme à Berlin. Un reportage de Julien Méchaussier.
La place du Gendarme marque dans le cœur historique de Berlin une place européenne avec son haut lieu de la culture, la Konzerthaus, les deux cathédrales françaises et allemandes qui se font face et la statue du grand poète Friedrich Schiller. Plus de 6000 personnes se sont rassemblées ici pour souhaiter un joyeux anniversaire à l'Union européenne, comme Marlène et Ricarda, deux étudiantes parées de drapeaux, badges et sacs aux couleurs de l'Europe.
Ces derniers temps, les médias ont donné une énorme place à ceux qui sont contre l'Europe, qui veulent se recroqueviller dans leur petit cadre national. Et pour moi, c'est tellement important que l'Europe reste ouverte. Nous nous sommes toutes les deux rencontrées à Paris grâce au programme Erasmus. Nous avons pu étudier en France grâce à l'Europe et c'est pour cela qu'elle nous tient tellement à cœur.
Pour célébrer les 60 ans du traité de Rome, la réplique d'une barrière douanière est sciée sur le podium où se succèdent de courts discours d'artistes et de personnalités publiques. Tous sont venus sous un beau soleil printanier rendre hommage à cette Europe synonyme de liberté. La parole est aussi donnée aux simples citoyens. Sur l'heure que dure le rassemblement, le microphone est ainsi ouvert pendant 20 minutes aux manifestants. Marion, française, mariée depuis de longues années, un Allemand raconte ainsi la première rencontre entre ses parents et ses beaux-parents au bord d'un lac dans le nord de Berlin. Et la surprise pour sa famille de découvrir un des hobbies préférés des Allemands, se baigner nu. Le père de Marion, pas décontenancé, s'est lui aussi dévêtu. Pour l'honneur de la France, comme il a crié avant de se jeter à l'eau.
L'objectif de cette histoire, c'était de montrer que quand on vit dans une union comme ça, franco-allemande, comme est la nôtre, on ne perd pas son identité, mais elle devient de plus en plus riche. On ne perd pas quelque chose, on gagne.
Un trait d'humour qui ne doit pas faire oublier le sérieux de ces rassemblements hebdomadaires.
Oui, je me fais beaucoup de soucis pour les élections en France et ça fait du bien de voir qu'il y a autant de gens qui s'investissent ici. Et je me suis aussi posé la question, qu'est-ce qu'on peut faire pour défendre l'Europe en tant que ceux qui sont contre l'Europe, hein, et de voir cet élan, de voir ces gens qui descendent dans la rue, cette foule qui grandit chaque semaine, ça fait du bien.
Simone, 18 ans, fait partie du comité d'organisation berlinois de Pulse of Europe. Et pour lui, 2017 sera une année charnière pour l'Europe.
Cette année est une super année électorale avec des scrutins à venir en Bulgarie et en France. On vient tout juste de voter aux Pays-Bas. On peut aussi s'attendre à des élections anticipées en Italie, sans oublier les élections d'ici au mois de septembre. Et cette grande année électorale doit être européenne.
Au pied de la statue de Friedrich Schiller, un immense rouleau de papier a été installé. Les manifestants sont invités à le signer, ce que s'est empressée de faire Corinna.
Je viens d'apposer ma signature sur ce grand rouleau qui symbolise le traité de Rome. C'est pour moi un geste fort et c'est très important d'être ici. L'Europe constitue une grande avancée pour les peuples. Mais nous devons encore aujourd'hui défendre la liberté, la démocratie et la paix. Et ça réchauffe le cœur de voir qu'il n'y a pas que les prêcheurs de haine qui descendent dans la rue. Nous sommes là pour célébrer une Europe qui a apporté le progrès. Une Europe qu'il faut conserver malgré ses défauts et tout ce qu'il reste à améliorer.
À la fin du rassemblement, Simone a les yeux qui brillent, très touchée de voir de nombreux jeunes qui s'engagent comme lui pour l'Europe.
Ça montre que l'Union européenne est quelque chose de très important pour les jeunes. Mais les anciennes générations sont également ici avec nous. Elles sont là pour nous rappeler une époque où l'Union européenne n'existait pas encore. Les plus âgés viennent aussi manifester.
Des anciens qui se rappellent d'une Europe désunie et marquée par les guerres. Et ces différentes générations rassemblées ne pouvaient se quitter sans entonner l'Ode à la joie de Beethoven, l'hymne de l'Union européenne.
C'est l'un des défis que l'Europe peine à relever, celui des réfugiés qui rejoignent le continent pour fuir la guerre et la misère. Avec une première en Italie, une école de psychothérapie destinée aux travailleurs sociaux, traducteurs et professionnels de santé qui travaillent avec les migrants. Derrière cette idée se cache le psychothérapeute Natale Lozi. Son portrait est signé Cécile Debarge.
Le titre du livre de Natale Lozi résume l'engagement de sa vie, guérir la guerre. L'ethnopsychologue y raconte ses expériences au Kosovo, en Palestine, en Colombie et ailleurs, là où la guerre a marqué les hommes et leur société. Avec l'arrivée de migrants sur les côtes italiennes, c'est dans son propre pays que Natale Lozi entend de nouveau ses récits de torture, de violence et de conflits. Après plus de 25 ans à travailler dans le domaine des migrations, dont plusieurs années passées à Genève, au sein de l'OIM, Office international pour les migrations, ce psychothérapeute choisit donc l'Italie pour ouvrir Ethnopsy, une école à l'avant-garde située en plein cœur de Rome, à deux pas du ministère de l'Intérieur et de la gare de Termini. C'est la toute première école du pays ouverte à tous les professionnels qui travaillent avec les migrants. Travailleurs sociaux, psychologues, médiateurs culturels aussi. L'objectif est double. D'abord, mieux prendre en charge les spécificités culturelles pour accueillir, écouter et soigner les migrants. Ensuite, pour les travailleurs sociaux eux-mêmes, mieux se préparer au fort impact émotionnel que tous ces récits peuvent avoir sur leur équilibre personnel. Cheveux blancs, petites lunettes rondes, Nathalie Lozy explique y avoir été lui-même confronté lors d'une semaine à Lesbos, en Grèce, au contact de migrants à peine arrivés et aussitôt repartis. Les professionnels les plus exposés au poids des récits très durs qu'ils peuvent entendre sont justement ceux qui travaillent dans les ports ou en mer, en première ligne à peine les sauvetages des bateaux effectués. Le plus dur, explique Nathalie Lozy, c'est de ne plus rien savoir de ces personnes qui, une fois à terre, disparaissent aussi vite qu'elles sont arrivées.
Les jeunes
européens.
La chronique.
Bonjour Eve Minot.
Bonjour Laurent.
Petite déception cette semaine dans le camp des jeunes européens. À l'automne, pour marquer les 30 ans du programme Erasmus, le Parlement avait suggéré d'attribuer un pass Interrail gratuit pour tous les jeunes européens atteignant la majorité cette année. Finalement, Eve, on peut dire que l'éléphant a accouché d'une souris.
Ah oui, une toute petite souris même, hein, puisque la commission ne va finalement participer qu'aux frais de transport de quelques élèves pour se rendre dans un autre pays de l'Union européenne. L'initiative va coûter environ 2,5 millions d'euros pour une toute petite visibilité, donc, puisque ce geste concernera entre 5 000 et 7 000 jeunes européens d'au moins 16 ans. Les voyages devront se dérouler entre août 2017 et décembre 2018, soit en groupe, dans le cadre d'un voyage scolaire, soit en individuel, en fonction de la décision qui sera prise par les parents et les enseignants.
Alors finalement, qui pourra profiter de cette aide financière ponctuelle ?
Alors, les jeunes bénéficiaires seront sélectionnés parmi les participants au programme de e-twinning. Vous savez, ce sont ces plateformes développées en ligne qui permettent de jumeler des classes, des établissements ou des projets autour d'un travail en commun avec d'autres jeunes européens avec lesquels ils communiquent et collaborent. Le programme e-twinning rencontre d'ailleurs un vrai succès. Au total, ce sont plus de 170 000 établissements européens qui sont rattachés au programme. Or, l'enveloppe anniversaire donc de la Commission ne concernera, comme je le disais, que 5 à 7 000 personnes. Un choix plus que raisonnable de la Commission, pas vraiment à la hauteur d'un programme aussi ambitieux qu'Erasmus, qui a, je le rappelle quand même, déjà fait se déplacer en Europe près de 5 millions de jeunes en 30 ans.
Oui, en effet, on est très loin d'une célébration d'Erasmus en grande pompe. Hein.
Oui, la Commission assume d'ailleurs de jouer les troubles faits. Elle dit n'avoir tout simplement pas les moyens financiers de payer un pass Interrail à tous les jeunes, un budget estimé quand même à 1,2 voire 1,6 milliard d'euros par an. Mais certains députés n'ont pas dit leur dernier mot. C'est le cas de Manfred Weber, par exemple, le chef de file du Parti populaire européen à droite, donc, et majoritaire au Parlement. Il a annoncé vouloir continuer la bataille pour que cette proposition d'ouverture pour tous, de voyage pour tous, soit contenue dans le budget 2018 de l'Union européenne. Il juge notamment que l'Europe a besoin de projets qui soient source d'inspiration et qui permettent, je cite, de découvrir les différentes cultures et la beauté de notre continent.
Alors si le succès du programme Erasmus ne se dément pas, les destinations, quant à elles, évoluent.
Oui, cette année par exemple, la décision du Royaume-Uni de quitter l'Union européenne a eu un certain retentissement. Selon le magazine britannique Times Higher Education, dédié à l'enseignement supérieur par exemple, les demandes de bourses Erasmus pour venir dans les universités britanniques ont baissé de près de 7% depuis le vote de juin dernier. Au contraire, certaines destinations ont plus que jamais le vent en poupe. L'Espagne reste ainsi la destination préférée des jeunes européens, et notamment les universités de Grenade, Madrid, Valence, Séville et Barcelone. Le deuxième pays de destination reste l'Allemagne, avec plus de 32 000 jeunes accueillis pour l'année 2014-2015. Et la France, elle, n'est pas sur le podium des destinations privilégiées par les boursiers Erasmus, mais par contre, elle occupe la première place des pays qui envoient le plus de jeunes à l'étranger, près de 40 000 étudiants.
Merci Eve Minot, on vous retrouve la semaine prochaine après un petit voyage à Lisbonne.
À la semaine prochaine.
Садулаев Абдул Рашид Булатович. Чемпион игр Олимпиады по вольной борьбе.
Dans les compétitions internationales, les lutteurs russes s'appellent Saïd, Chamil ou Magomed, car tous quasiment viennent du Daghestan, pays où la lutte est le sport national et où ils sont considérés comme des modèles. Dans cette république située à l'est de la Géorgie, sur la mer Caspienne, la moitié de la population a moins de 30 ans. Pour les jeunes hommes, s'illustrer dans cette discipline, c'est affirmer leur puissance et leur virilité. C'est aussi l'espoir de se faire un nom à l'international et de s'élever socialement. Écoutez le reportage d'Étienne Bouche.
Il suffit de passer la porte du centre Gamidov pour respirer une forte odeur de soie. Cet après-midi, le tatami bleu est luisant. Près de 80 jeunes de 15 à 18 ans se débattent dans cette immense salle entièrement rénovée il y a 5 ans. C'est la plus grande de Makhatchkala et la plus prestigieuse de tout le Caucase. Les jeunes lutteurs ne sont pas là pour s'amuser. Lorsque l'entraîneur parle, on pourrait entendre une mouche voler. Imam, 18 ans.
Tout le monde veut venir ici car la sélection est stricte. Quand je suis venu la première fois, l'entraîneur m'a dit « Je vais jeter un œil à tes jambes, si elles ne sont pas assez solides, je te renvoie chez toi ». Il a regardé, il m'a retenu. Je m'entraîne du lundi au vendredi entre 2h et 3h par jour.
Le père d'un élève regarde l'entraînement à travers la fenêtre. Il explique que si la lutte est si populaire au Daghestan, c'est qu'il n'y a jamais eu d'infrastructure pour faire autre chose. Anvar Magomedgadjev a 60 ans. Il est l'entraîneur le plus respecté de la salle Gamidov. Il rappelle l'importance de ce sport dans la culture du Daghestan.
Dans tout le Caucase, en Ossétie, en Tchétchénie et surtout au Daghestan, tous ceux qui donnent naissance à un fils espèrent qu'il sera un champion. Tout le monde n'y parviendra pas, mais tous y aspirent. Dans le Caucase, à l'époque tsariste et même avant, il fallait faire face aux conditions de vie dans la montagne et se débrouiller par soi-même pour survivre. Depuis toujours, l'homme a toujours été chez nous le chef de famille, celui qui défend sa patrie, sa sœur, sa femme. Chacun veut être fort, montrer qu'il est un homme.
C'est la fin du cours pour les plus jeunes qui rejoignent les vestiaires. C'est au tour des plus expérimentés d'attaquer l'échauffement. Magomedine a 20 ans et des épaules déjà impressionnantes. Il passe en revue le palmarès des champions qui se sont entraînés ici. Leurs portraits ornent les murs de la salle. Magomedine a remporté le championnat d'Europe jeune à Bucarest l'année dernière. Un résultat qui lui fait espérer un destin similaire.
Mon objectif, c'est de gagner un championnat du monde, de devenir un champion olympique. Et bien sûr qu'un jour, on accroche aussi mon portrait sur ce mur.
La nouvelle gloire du centre Gamidov, c'est Abdulrachid Sadoulayev, médaillé d'or à Rio l'année dernière. Ils ont tous regardé sa victoire à la télé. Son mariage a fait les gros titres de la presse locale et une salle a même été ouverte à son nom il y a quelques mois à Makhatchkala. Jamal a déjà 10 ans de lutte derrière lui et un beau palmarès. Ses oncles pratiquaient déjà ici. Il observe un mode de vie très réglé afin de briller dans les compétitions. Car pratiquer à un niveau professionnel, la lutte est souvent un tremplin social.
Quand tu commences à obtenir des résultats, tu reçois des prix, un salaire, des cadeaux, ça change complètement. On peut faire beaucoup plus d'argent dans le sport ici. Avec un emploi de fonctionnaire, tu touches 200 $, 300 maximum par mois. Avec la lutte, en travaillant fort, tu peux gagner autour de 2 000, 3 000 $. Les prix peuvent te rapporter jusqu'à 60 000 $. Des montants incroyables si l'on compare avec les salaires ici.
Le sport contre la drogue et le terrorisme. C'est le slogan qui figure sur la façade du centre Gamidov. La pratique de la lutte est soutenue par les autorités locales. Il n'y a pas moins de 8 écoles de lutte à Makhatchkala. Osman Aygoumov est le vice-président de la Fédération de lutte du Daghestan. Il reçoit dans un bureau qui confirme l'importance accordée à la lutte dans la République. Il n'est d'ailleurs pas rare qu'une fois à la retraite, les anciens lutteurs se lancent dans une carrière politique.
Le président de notre Parlement a une renommée sportive internationale. 2 députés du Daghestan à la Douma. Le premier a été champion d'Europe, le second est un triple médaillé olympique. Lorsqu'ils abandonnent la lutte, ils sont estimés car ils ont fait honneur à la République. En devenant champion olympique, champion du monde ou d'Europe, on acquiert une autorité qui dépasse le milieu sportif.
Selon le ministère des Sports local, près de 6 000 jeunes pratiquent la lutte à Makhatchkala. Beaucoup s'accrochent à l'espoir d'y faire carrière dans une république qui a peu à offrir à sa jeunesse. Le Daghestan fait partie des régions les plus pauvres de Russie.
C'est Françoise Grelot qui aujourd'hui encore assurait la réalisation et la mise en onde de cette édition. Accent d'Europe à retrouver demain dès 17h40 temps universel et tout de suite sur RFI.fr à la page émissions.